feel good. I knew that I would not. So nice, so nice, I got you. So good, so good, I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good au mois de juin. Alors on a pas mal de stagiaires autour de nous, vous pouvez le voir, on a le plaisir d'accueillir Atim, Tom, Jules et Océane. Pour participer à cette émission I Feel Good, c'est 30 minutes pour profiter des ondes positives d'un invité, messieurs, dames. 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui, par son engagement, apporte un peu de bien-être et de mieux vivre ensemble. Madame, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir un homme très, 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 très discret. Difficile de savoir d'où il vient, ce qu'il pense, comment, ses leviers. Et il a accepté, j'ai été assez surpris de se poser 30 minutes dans I Feel Good. C'est le directeur général de MMH chez Lionel Mahuet.
So good, so good, I got you.
Bonjour Lionel.
Bonjour Christophe.
Merci d'avoir répondu à l'invitation. Vraiment, ça me fait très plaisir parce que on a l'occasion de se croiser par nos engagements professionnels. Et donc, du coup, je vois un homme précis qui parle peu, mais quand il parle, c'est posé. Ça vient d'où ça?
On ne sait jamais véritablement d'où ça vient, mais peut-être de mon éducation, peut-être de mon parcours qui fait que, avant de parler, on écoute. Et puis on parle, et puis on ne parle pas pour ne rien dire. Voilà, ce sont des choses de bon sens, des éléments de bon sens, mais je pense qu'on a tout à y gagner.
Et alors, autre perception que j'ai, c'est que Lionel Mahuet, quand il vient à des réunions, il vient rarement seul, il vient souvent avec ses collaborateurs, qui ont une grande liberté de parole, en tout cas, et il vient en équipe.
L'équipe, c'est primordial, voilà. Vous connaissez cette phrase, alors c'est un cliché, mais la star c'est l'équipe. Oui, on ne fait rien seul. Bien évidemment, il faut être là pour animer, impulser, fédérer.
Nie pas ton rôle de manager.
Bien évidemment.
Mais chacun sa place.
Mais il faut vraiment une équipe. Il faut avec des personnalités fortes qui ont aussi des choses à dire et des choses à faire.
Alors cette notion d'équipe, tu l'as là aussi, tu vas me dire ça vient de ma jeunesse ou c'est appris avec le tas, parce que dans ta carrière, t'as pas forcément travaillé tout de suite en équipe. Enfin, tu as été un membre d'équipe, on va y venir en quelques instants.
Surtout que quand je réfléchis, les rares sports que j'ai pratiqués, j'ai fait du sport étant plus jeune, c'était de la natation et du tennis. Alors d'ailleurs, ce sont des sports individuels, donc c'est pas véritablement à travers le sport. Et puis un peu d'aviron, on est quand même plusieurs sur un bateau normalement, sauf quand on est en skiff. Mais voilà, donc d'où ça vient, je pense que c'est sans doute le fruit du parcours, tout simplement. Je pense qu'on se construit brique par brique, quoi, donc voilà.
On dit vite fait le parcours professionnel, aujourd'hui directeur général de MMH, Meurthe-et-Moselle Habitat, ça fait 20 ans, quasiment
le temps passe.
Moi, 19 mois et demi, voilà. Oui. 19 mois et demi que tu sévis dans cet office, dans cette maison. 20 ans c'est long.
20 ans c'est long, mais alors déjà on ne voit pas le temps passer. Les sujets sont à la fois très divers, les enjeux, les territoires, les personnes qu'on rencontre. Bref, on n'a jamais fini, quoi. On a toujours des nouveaux enjeux, des nouveaux sujets, des nouveaux projets, des nouveaux défis. Donc on ne voit pas le temps passer.
Et avant, un homme qui a été un collaborateur d'élus, et de grands élus même, Michel Dinet, Jean-Yves Le Déo.
Oui, ça a été la première partie de mon parcours professionnel quand j'étais jeune, quand j'avais encore des cheveux d'ailleurs. Voilà, pour Jean-Yves Le Déo, pendant mes études d'ailleurs, quand j'étais à Sciences Po Paris, j'ai travaillé à temps partiel à l'Assemblée nationale pour Jean-Yves Le Déo. Puis j'ai continué à l'issue de mes études. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Et puis au cabinet du président et des vice-présidents du département. À une époque où effectivement il y avait Michel Dinet, Jacques Chérec, Jean-Yves Le Déo, bref, donc ce sont les personnes auprès desquelles on apprend beaucoup.
Alors, l'engagement pour le logement social, 20 ans, l'engagement au service du public, des collectivités territoriales, des élus également, ça fait partie de ton ADN. Je remonte le temps, en fait. Hein. Et puis, tu l'as évoqué, des études à Paris, Sciences Po, un bon petit profil Sciences Po. Mais avant, dans les premières dates importantes dans ta vie, dans la première date importante dans ta vie, tu voulais parler de tes 18 ans.
Oui. Ah, ils sont loin. Hein. Donc
c'est
voilà,
pas vrai, c'est
c'était
pas vrai.
en 1989. C'est effectivement la première date. Parce que voilà, c'est une année pour laquelle il se passe plein de choses pour moi. Et puis quand on s'intéresse un peu aux affaires du monde, il se passe plein de choses aussi en 89 quand on réfléchit un peu. Hein. Donc voilà, donc c'est l'année de mes 18 ans, c'est l'année évidemment du bac, des études, enfin voilà, du lancement des études, ça c'est important. Puis la même année, en 89, il y a des combats pour la liberté, alors qui échouent dans le drame et dans la tragédie comme à Tiananmen, par exemple, en Chine, mais qui par contre réussissent avec la chute du mur de Berlin, voilà, la libéralisation, la démocratisation du bloc de l'Est. Voilà, ça c'était une date importante. Et puis, il se trouve que, hasard du calendrier, c'était aussi le bicentenaire de la Révolution française en 1989. Et on se souvient aussi d'un magnifique défilé. Moi, je me souviens d'un superbe défilé organisé par Philippe Découfflet, le grand chorégraphe, sur les Champs-Élysées. Enfin, je ne l'ai pas vu en live, hein, je l'ai vu à la télé. Mais, voilà.
Donc, 18 ans, tout est permis, le monde change.
Voilà, c'est ça. Tout est permis. On a la construction européenne aussi qui fonde une bonne partie de mon engagement. Voilà. Donc c'est, on a l'impression que le champ des possibles est très 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 vaste à ce moment-là. C'est un moment de bouleversement et qui est enthousiasmant, oui, en 89.
J'aurais envie d'interviewer les jeunes qui sont autour de nous et de leur demander si le monde qu'ils voient aujourd'hui autour d'eux leur donne de l'enthousiasme et l'envie de bouger. Jules.
Oui, ça... Ouais, je sais pas.
Pourquoi
oui. Je sais pas. Je sais pas.
Tom, Tim, Océane, n'hésitez pas. Rapprochez-vous du micro, nos techniciens. N'hésitez pas aussi un peu à intervenir. Vous imaginez la chute du mur de Berlin? Vous imaginez le bicentenaire de la Révolution? Vous imaginez Tiananmen? Vous connaissez Tiananmen?
Oui, si, oui.
Vas-y, Virgil. Et ça représente quoi pour toi?
Je sais pas comment expliquer, je sais pas. je sais pas.
On est dans des générations différentes, Lionel. Toi, t'as 18 ans, vous avez presque 18 ans. Ben, on y arrive, oui. À 2-3 ans près.
Oui, parce qu'il s'est passé quand même 34 ans depuis. Donc c'est comme quand moi, si en 89, on m'interrogeait, ouais, sur les années 50. Ouais. Vous voyez, quoi, le choc quand même. Quoi. Donc, oui,
toi, qu'est-ce que tu dis de ces années 90, 89?
89, voilà, c'est effectivement l'ouverture du champ des possibles. Et j'insiste là-dessus, une accélération de la construction européenne, clairement. Voilà.
L'Europe, ça vous cause?
Oui.
Pourquoi? En quoi? Vas-y, rapproche-toi vraiment du micro, sinon mon Jean-Luc il va se dire mais c'est pas possible.
Bah, l'Europe, c'est le plus grand agent économique au monde.
Pour toi, c'était quoi, Lionel, l'Europe en 1989?
Alors l'Europe, on avait véritablement... Alors c'est le traité de Maastricht finalement en 92, hein, et on dit tiens, l'Europe va prendre un poids nouveau, plus fort, avec une monnaie unique, avec les premiers jalons d'une politique étrangère et de sécurité commune. Voilà. Des premiers jalons, même si ça s'est peu développé pendant un certain temps, mais de l'Europe sociale. Voilà, c'était ça pour moi à ce moment-là. Alors évidemment, on peut avoir aussi parfois certaines déceptions, mais il ne faut jamais se résigner, abandonner. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire devant nous. D'ailleurs, on le voit, l'Europe a pris ces derniers mois énormément d'envergure et a pris beaucoup de poids.
Avec une Europe politique, alors.
Avec, voilà, une Europe politique.
Pas seulement
c'était
économique.
Ça. C'était véritablement la promesse de ces années-là, finalement.
Donc, 18 ans, tu passes le bac, c'était où, alors?
C'était à Pont-à-Mousson, au lycée Jacques Marquette.
Un vrai petit Meurthe-et-Moselle, ce Lionel Mahuet?
Oui, finalement, parce que à part mes études, une partie de mes études que j'ai faites à Paris, si je me retourne, je suis né à Mont-Saint-Martin, donc dans le nord du département, et puis j'ai passé toute ma... Oui, je descends finalement, parce qu'après je suis arrivé à Pont-à-Mousson pour toute ma scolarité, jusqu'à mes études, début de mes études, et puis maintenant, Nancy.
C'est Sciences Po, c'est pourquoi, quel choix tu as fait de Sciences Po, pourquoi tu as fait Sciences Po, quel choix au sein de Sciences Po tu as fait, quelle perspective tu avais à ce moment-là?
Alors, les perspectives précises, j'en avais pas. J'avais pas notamment de plan de carrière. Mais par contre, le vrai sujet, ce qui m'intéressait dans Sciences Po, c'était la pluridisciplinarité. Voilà. C'était le côté très transverse des enseignements. J'ai après choisi plutôt, on parle des affaires européennes, c'était une dominante que j'avais choisie. Mais on a des matières et des très très transverses et je ne voulais pas me spécialiser trop tôt.
Ça veut dire quand même, si tu passes par Sciences Po Paris, c'est que l'élève n'était pas trop mauvais quand même.
Oui, mais c'est pas bon voilà. De dire ça.
Tu aimais la scolarité, ça te causait, tu aimais ça?
Franchement, j'ai eu la chance.
Pas le choix, papa, maman,
en plus, des parents enseignants, mais effectivement, mais c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir une scolarité heureuse et sans difficulté, voilà, mais j'avais aussi un environnement propice. Donc à la limite, j'ai pas de mérite.
Alors t'as pas de mérite et en même temps, si on poursuit la carrière, en même temps que tu fais tes études à Paris, on te propose un petit bout de contrat. C'est comme ça que tu commences à bosser, si tu me racontes.
Oui, parce qu'effectivement, je suis à Paris. À la fois, c'est passionnant de pouvoir travailler, puis il faut aussi mettre un peu de beurre dans les épinards. Hein, donc j'ai commencé à travailler quand j'étais étudiant à Paris, à temps partiel. Et on découvre. C'est un peu les travaux pratiques finalement de ce qu'on peut apprendre.
Alors parce que tu étais attaché parlementaire.
Attaché parlementaire avec Jean-Yves Ledéo à l'Assemblée nationale.
Donc travaux pratiques parce que tu étais étudiant à l'époque, à Carton. Tu étais étudiant en Sciences Po. Voilà. Donc du coup c'est ça, c'est
voilà,
des vrais
c'est ça.
Travaux pratiques.
Voilà, on joint la théorie et puis la pratique et l'environnement institutionnel et voilà tout ça quoi.
Alors pour nos auditeurs et pour nos amis autour de la table, c'est quoi un attaché parlementaire, un assistant parlementaire, ça sert à quoi?
Alors ça sert à quoi? Il faut résumer ça très rapidement. On va l'attaché parlementaire va être le collaborateur d'un député ou d'un sénateur, en l'occurrence. Là, c'était un député qui va l'assister dans son travail, préparer un certain nombre de dossiers, recevoir pour son compte parfois certaines personnes. Bref, préparer les choses, être présent. Ça peut être à la fois sur des réflexions nationales conduites par le député, donc l'assister dans ses projets nationaux, mais aussi local. Et je crois que le double ancrage, j'ai toujours apprécié ça, moi. La question à la fois les enjeux nationaux un peu et puis l'ancrage local.
Préparer des lois qui viennent à partir des attentes du terrain. Par exemple, nous, en la présence de Jean-Yves Ledéo, on était sur des questions plutôt de recherche, d'innovation,
d'innovation, bioéthique aussi à cette époque-là. Je sais qu'il avait participé, je crois, au sommet de la Terre, où il avait travaillé sur le sommet de la Terre à Rio en 92. Enfin, on était aussi sur les premier grand rendez-vous environnementaux. Alors je pense qu'il faut accélérer parce que oui, je parle de ça, ça fait 30 ans et on sait que maintenant il faut faire en même pas 10 ans ce qu'on a fait en 30 ans quoi, sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc il y a beaucoup de travail encore.
Donc ce premier pas à l'étrier professionnel, c'est du travaux pratiques, on va dire des études quoi, qui se poursuit.
Oui, qui se poursuit après mon service
l'étudiant
national.
L'étudiant m'a eu un petit coup de service national, passé par où?
Oui, bien sûr. J'avais un statut militaire, mais je le faisais au titre de la politique de la ville. Donc c'est un statut tout à fait particulier. Service national ville, mais pendant 10 mois. Donc j'étais rattaché, j'ai fait quelques jours de classe à la base de Toul-Rosières, puis j'étais administrativement attaché à Nancy-Vaucher. Aviateur exactement, deuxième classe, mais après affecté dans le civil pour justement des activités de soutien scolaire.
Allez, t'étais où?
Pendant 10 mois, à Pont-à-Mousson.
C'était
une association, effectivement. Et puis après, je commence à chercher un peu de boulot et Jean-Yves Ledéo me dit, si tu veux, tu bosses à plein temps en attendant. Puis le « en attendant » a été un peu plus durable, puisque j'avais fait un DEA de droit communautaire, droit européen. Donc je m'interrogeais, est-ce que je passe les concours de la fonction publique européenne? Est-ce que je cherche du travail? Donc j'avais commencé à chercher un peu de boulot, plutôt comme juriste spécialisé un peu en matière européenne. Et puis cette proposition a été faite par Jean-Yves Ledéo, j'ai poursuivi... avec lui à ce moment-là, oui.
Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, alors je le fais tout de suite. On sent une appétence pour l'Europe, un peu au-delà, même, ou la place de l'Europe aussi dans le monde. Voilà. La suite de ton parcours professionnel, on le retrouve peu, c'est un manque, ou c'est une suite peut-être à venir?
Ah, genre, ça, on peut jamais savoir. Non. Ça m'intéresse à titre personnel, évidemment. Je continue à être très passionné par les enjeux et les débats européens. On le met moins en pratique au niveau professionnel, mais finalement, c'est pas grave. Hein, on peut avoir d'autres champs d'intérêt qui permettent d'assouvir une passion qui est, en l'occurrence, la passion d'Europe.
Tu es mon deuxième invité à avoir fait un séjour à Paris, mais juste le temps de faire ses études et d'être revenu, c'était l'évêque des Vosges. Et lui, quand il y était, c'était, et il avait cité cette période-là, c'était mai 68 et c'était Sous les pavés. C'est le titre, par contre, que tu as choisi et que l'on écoute tout de suite.
Où est passé le vrai désir d'être vivant, les envolées sauvages et les nuits éblouissantes. C'est trop facile de dire que c'était mieux avant. Sous les pavés, la plage, sous le sable, le ciment. Et plus les années passent, plus y a tout qui part en couille. Où sont les derniers fous au milieu de la foule? Mais faut pas que je désespère, non. Il reste des choses à faire. Y a tout qui reste à faire. Y a tout qui reste à faire. Sous les pavés.
Sur RCN, Christophe Chevardet.
Et surtout Lionel Mahuet qui a choisi Sous les pavés. Pourquoi ce choix, Lionel?
Pourquoi ce choix? Parce que je trouve dans cette j'aurais pu choisir tout l'album hein, de Nizia qui est Citadelle, mais je pense que tu n'aurais pas été d'accord. Non. Donc ça aurait pris toute l'émission. Donc il a fallu que
je choisisse la technique
une chanson.
Politique.
J'ai choisi une chanson qui est une chanson avec beaucoup d'énergie. Nizia qui a énormément d'énergie dans cette chanson, effectivement. Et puis. Avec à la fois une part de mélancolie un peu, et puis en même temps non, pas de résignation, il y a de l'espoir, il reste des choses à faire, il y a tout qui reste à faire, voilà, je crois que c'est important.
Pourtant Lionel Mahuet est un homme très posé, très méthodique, très il y a deux visages, quoi.
Parce qu'il y a deux visages. Est-ce que je suis un faux calme? C'est pas à moi de, pas à moi de le dire. Voilà. Mais en tout cas, je pense que oui, il faut être posé, méthodique. Ça n'empêche qu'on peut avoir aussi des passions.
Alors, on va y venir deux secondes dans les passions. Alors, si, bah, parlons-en justement des passions. Mais alors, justement, c'est pas du sport de combat. C'est pas. Voilà.
Non, c'est pas du sport de combat. D'ailleurs, vous voyez, quand je faisais du tennis ou de la natation en sport, c'est pas les sports les plus violents, hein, bien évidemment, heureusement.
Hommage à Jean-Paul Noah, à Yannick Noah, pardon.
Oui, voilà, absolument, parce qu'on se souvient, il y a 40 ans, hein, Yannick Noah. Ouais.
Alors, allons-y. Tes hobbies, tes passions?
Les hobbies, des passions. Moi, j'aime marcher en ville, voilà. Marcher à Nancy, j'aime ça, j'aime beaucoup. J'aime un très bon resto avec ma compagne ou avec des amis. Voilà, j'aime lire, j'aime les choses finalement très simples. J'aime voyager beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup voyager. Je n'ai pas dit que je voyageais beaucoup. Hein. Il va falloir qu'on fasse attention avec le bilan carbone. Donc voilà, en tout cas, il faudra voyager différemment, mais les voyages, oui.
Alors, dans ton parcours, tu es capté par l'équipe de Michel Dinet au conseil départemental, ça devait s'appeler le conseil général.
Conseil général. Oui.
De Meurthe-et-Moselle, donc retour sur le territoire meurthe-et-mosellan, tes racines.
Oui. Alors j'y étais déjà un peu revenu comme assistant parlementaire hein, de toute manière. Donc voilà. Donc là, c'est la Meurthe-et-Moselle. C'est passionnant parce que au sein d'un conseil général à l'époque, départemental aujourd'hui, vous avez une diversité de sujets. Vous êtes même ce sont pas toutes les questions que vous traitez, mais vous êtes associé. En tout cas, vous assistez à un certain nombre d'échanges, de réunions. Sur tous les enjeux, sur tous les sujets. Je pense que c'est une formation aussi à vitesse grand V, indépendamment des sujets que vous portez vous-même.
Donc une vue 360 sur un territoire avec les politiques publiques qui sont mises dessus. Captation, comment ça se passe le logement social? Comment tu bascules à l'époque à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle?
Oui, c'était, effectivement, ça s'appelait l'OPAC de Meurthe-et-Moselle à cette époque-là. J'avais été resté 5 ans au cabinet de Michel Dinet. Et Jean-Paul Cruciani, qui venait d'être nommé directeur général, était en train de constituer ses équipes et cherchait notamment quelqu'un pour l'accompagner dans la réorganisation, on va dire, des services ressources. Voilà. Donc comme c'était dans mon genre de beauté, on va dire, hein, dans mes cordes, il m'a proposé, j'ai accepté bien volontiers. J'ai découvert un milieu passionnant, qui est le milieu du logement social. D'ailleurs, je n'en suis pas sorti, mais je pense que quand on tombe dedans, on n'en sort pas, parce qu'il y a tellement de beaux sujets à aborder et à traiter. Que...
Alors ça, c'est pas le DG qui sert sa soupe en disant « mais bien sûr, le logement social, c'est formidable, c'est extraordinaire ». En quoi c'est formidable?
En quoi c'est formidable? Parce que, déjà, c'est... L'habitat, c'est un droit fondamental. Donc vous agissez sur l'accès, un droit fondamental sur la vie des gens. Et puis l'habitat social, vous avez croisé des enjeux de solidarité, des enjeux d'urbanisme, des enjeux économiques, des enjeux architecturaux, des enjeux environnementaux, bien sûr. Voilà. Donc c'est, pareil, une multiplicité d'enjeux. Et c'est ce qui rend le métier aussi passionnant.
Alors... Tu peux nous faire un petit bout de panorama ou de spécificité du logement social en France? En quoi on est un peu atypique? En quoi aussi peut-être en France et en Meurthe-et-Moselle?
Alors effectivement, que ce soit en France ou en Meurthe-et-Moselle, on a la chance d'avoir un parc de logement social significatif.
Ce qui n'est pas le cas dans
tous les pays. Voilà. Si on vient sur une approche européenne, ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Ça dépend lesquels. Hein. La situation est assez diverse. Bref, mais en France, un peu plus de 4 millions de logements sociaux, de mémoire. Et puis, avec deux grandes familles, on va dire, d'organismes, les offices publics de l'habitat et ce qu'on avait appelé avant les sociétés anonymes d'HLM, les entreprises sociales de l'habitat. Donc, la spécificité des offices publics de l'habitat, c'est le lien avec le territoire, c'est le rattachement à une collectivité locale. Pour Meurthe-et-Moselle Habitat, c'est le rattachement au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.
Donc vous marchez main dans la main avec un opérateur qui est... C'est pas un opérateur, pardon.
Avec notre collectivité.
Votre collectivité qui est le département, voilà. Et à côté de ça, on a des SA de HLM, enfin les ex-SA de HLM. Alors pour les citer, pour donner des noms, c'est comme Batigère,
voilà, absolument.
Donc, et alors si on fait un peu plus le focus sur la Meurthe-et-Moselle, on a un peu la spécificité que vous travaillez super bien ensemble.
Oui, absolument. C'est aussi une spécificité forte sur notre territoire de coopération. De coopération de longue date entre l'ensemble des organismes HLM, l'ensemble des familles d'organismes HLM. Voilà. C'est pas les Montaigu, les Capulet, quoi. Il n'y a pas de querelles de familles irréconciliables.
Je fais un peu la pub, mais c'est vrai qu'on a une émission qui s'appelle le Forum des bailleurs, où justement tout le monde se met ensemble, et l'évolution de l'émission, où on avait prévu une émission un peu chacun dans son créneau, quoi, voilà. On a une petite tendance et des perspectives de dire bah, il y a des émissions qu'on va peut-être faire un peu ensemble sur des thématiques, c'est dire à quel point il y a un ADN du logement social sur ce territoire qui fait qu'on partage des problématiques. Qu'est-ce que, par rapport aux locataires, qu'est-ce que vous ressentez comme évolution aujourd'hui par rapport à leurs attentes dans leur logement ou dans cette fonction d'habitat ?
En tout premier lieu, on doit un logement qui doit être de qualité. Un logement de qualité, un service de qualité. Donc il y a une exigence, elle est normale, de qualité de service. Donc il faut toujours se remettre en question, toujours progresser. Et puis, naturellement, la maîtrise aujourd'hui, et déjà hier, mais encore plus maintenant, la maîtrise des charges d'énergie. Donc les questions d'avoir des logements qui soient performants, énergétiquement, à la fois agréables à vivre, avec autant que possible un espace extérieur, qui soit un balcon, etc. Et surtout, très performants énergétiquement, puisque enjeux environnementaux et également le fait d'avoir des charges de chauffage réduites autant que possible.
Par rapport à ces 20 ans dans le logement social que tu y es présent, quelles sont un peu les dates fortes en termes d'opportunités et puis peut-être les points qui vous ont mis en difficulté ?
En termes d'opportunités, alors là, aucune date qui me vient spontanément à l'esprit.
L'ANRU ?
Oui, l'ANRU, absolument. Voilà, ça, c'est effectivement... absolument. Pardon, oui, sur les grands projets, oui, c'est vrai que l'ANRU, l'ANRU 1, l'ANRU 2 sont des programmes qui nous ont mobilisé
en rue.
La rénovation urbaine, des grands programmes de rénovation urbaine. Le fait, pareil, de se mettre autour de la table, collectivité, les acteurs du logement social, les partenaires comme Action Logement, la Caisse des dépôts, bref, l'ensemble des partenaires, la coopération. Donc, on ne fait rien sans coopération.
Ceux qui gèrent, ceux qui peuvent financer, ceux qui peuvent un peu construire aussi.
Absolument, c'est exactement ça. Mmh. Voilà. Et puis, on a eu malheureusement quelques mauvaises nouvelles de temps en temps, et pas que de temps en temps, mais en tout cas, la fameuse RLS, la réduction de loyer de solidarité, baisse des APL compensée par une baisse des loyers, donc c'est une baisse de ressources. Et quand on a moins de ressources, eh ben c'est plus difficile d'investir, c'est basique.
Alors tu disais l'investissement, on doit le faire au titre de la transition énergétique, c'est un peu la troisième date importante dans ta vie, c'est le 12 décembre 2015.
12 décembre 2015, ça permet de... Parce que ça nous concerne tous, 12 décembre 2015, c'est l'accord de Paris sur le climat, qui est la grande affaire de la décennie et du siècle qui vient.
Et en quoi elle te parle à toi, cette date-là ?
Elle me parle à la fois, elle me parle à titre professionnel naturellement, parce qu'on a des grands enjeux, je le disais, je ne vais pas y revenir, pour nos logements, de transition environnementale, de construction biosourcée, etc. Puis elle me parle dans ma vie de tous les jours, comme citoyen, elle me parle pour mes enfants, pour nos enfants. Voilà. Il faut construire un monde qui reste vivable demain. Il faut se dépêcher.
Deux enfants, Lionel Maillet ?
Deux enfants, alors... oui, deux enfants de 18 et 20 ans. Voilà. Paul et Antonin, que je salue.
Salut les garçons, avec un peu de stress en ces périodes de fin d'année.
Un peu de stress pour le petit, enfin le petit qui est grand maintenant, mais voilà, il y a tant Parcoursup, enfin il a déjà quelques bonnes nouvelles, mais on en attend de meilleures, on espère.
Un clin d'œil à lui. Et s'il y avait une quatrième date, ça serait quoi ? Une quatrième date d'avenir, de perspective ?
Quatrième date d'avenir, mais on parle beaucoup de... je fais le lien avec ce que je viens de dire finalement sur l'accord de Paris sur le climat, on parle de 2030, comme étant une date importante posée sur le jalon de la réduction des gaz à effet de serre. Et il faut qu'on soit au rendez-vous en 2030 pour l'être après en 2050 pour la neutralité carbone. Donc voilà, 2030, rendez-vous en 2030, c'est demain, hein, c'est dans 7 ans, il va falloir faire une bonne partie du chemin.
Mais tu disais, tu y as travaillé il y a 40 ans quasiment, quand tu travaillais pour...
On en parlait déjà dans les années 90. On en parlait dans les années 90, effectivement, de façon de protocole aussi de Kyoto, enfin bref. Donc on a, justement, on voit bien dans tout ce qui est annoncé, bon, on l'entend sur les ondes, hein, on a besoin dans les années qui viennent de faire le chemin qu'on a parcouru en 30 ans.
Toi, dans ton boulot, c'est vraiment, ça devient vraiment un indicateur d'une politique, un indicateur d'une, d'une action
C'est incontournable.
Et mais vraiment tu ne dis pas ça pour...
Non, mais ce n'est pas du greenwashing ou parce que c'est à la mode, etc. Mais d'ailleurs, on le fait. Voilà, on a des gros programmes de réhabilitation. On vient de réhabiliter 3000. On a 1000 logements qui vont être réhabilités dans les deux prochaines années avec un niveau BBC rénovation. Je ne veux pas être trop technique, mais en tout cas, qui permettent de bien réduire les charges. On réfléchit pareil, au, ce qu'on appelle, on fait du logement passif, donc très peu consommateur d'énergie. Voilà, donc, et puis la question des matériaux biosourcés qui entre de plus en plus en ligne de compte dans nos réflexions. Donc, il va falloir passer la démultiplier, c'est-à-dire qu'on est, il va falloir augmenter.
Seulement 20 ans de logement social, on sent qu'il y en a encore un peu sous le pied encore. Merci Lionel d'être
venu.
À bientôt. Merci d'avoir pris le temps de partager cette belle passion pour le logement social et puis aussi pour la planète.
I feel nice, like sugar and spice.